BFM Business, édition spéciale.
Il est midi sur BFM Business, soyez les bienvenus dans 60 minutes business, édition un petit peu spéciale consacrée évidemment à ce second tour des élections législatives avec cette grande question, est-ce que la France sera ingouvernable ou pas au cours des 5 prochaines années? Vous savez que c'est le grand enseignement des résultats qui sont tombés hier soir. Emmanuel Macron n'a pas obtenu de majorité absolue à l'Assemblée, il devra composer a priori avec les Républicains pour mener à terme les réformes qu'il entend faire passer. Mais est-ce possible et des réformes qui auront quel aspect visiblement? On va en parler avec nos invités dans quelques instants et même tout de suite. On est en ligne, en vidéo interposée avec Jean-Thomas Le Sueur, directeur général de l'Institut Thomas More. Bonjour Jean-Thomas. Merci d'être avec nous ce midi sur BFM Business. Antoine Fouché qui va nous rejoindre dans un instant, avocat, président du cabinet Quintet et ancien conseiller de Muriel Pénicaud au ministère du Travail. Et puis Thomas Asportas qui est avec nous. Bonjour Thomas.
Bonjour Guillaume.
Déjà pour rappeler où nous en sommes ce midi, Thomas, voilà, on le disait, donc Emmanuel Macron qui n'a pas décroché de majorité absolue à l'Assemblée, Thomas, à l'arrivée.
Hein. Séisme politique, la question qui nous intéresse, est-ce que c'est un séisme économique? Dans quelle mesure ce résultat sorti des urnes va impacter le programme économique d'Emmanuel Macron pour ce second quinquennat et dérouler les réformes comme il entendait de le faire? Ce qu'on peut dire d'ores et déjà à ce stade et qui est certain, c'est que c'est difficile d'imaginer qu'effectivement le programme économique d'Emmanuel Macron ressorte indemne du résultat de ces législatives pour plusieurs raisons qui sont bien évidentes. La première, c'est que le chef de l'État n'a plus une majorité absolue à l'Assemblée. Oui. Il n'a plus un groupe fort, puissant, comme il l'avait lors de son premier quinquennat pour voter sans l'ombre d'un doute toutes ces réformes. La deuxième raison, c'est qu'il va devoir du coup apprendre à nouer des alliances avec d'autres forces politiques à l'Assemblée. C'est quelque chose que la Macronie ne sait pas faire, n'a pas fait pendant 5 ans. Donc ça, c'est un apprentissage politique en soi, que le groupe Ensemble, donc le nouveau nom de la majorité présidentielle, va devoir apprendre à faire. Et comme vous dites, très vraisemblablement avec le parti des Républicains, qui est le parti avec lequel on suppose la majorité pourra le plus facilement, entre guillemets, je mets bien des guillemets, facilement nouer un accord et une majorité à l'Assemblée. Donc ça veut dire édulcorer ou en tout cas adapter, le terme est plus juste, adapter le programme aux exigences du Parti des Républicains. Et puis le dernier enseignement qui fait que d'une façon ou d'une autre, le programme va devoir être revu, c'est que le gouvernement va devoir être modifié. Il va y avoir un remaniement d'une façon ou d'une autre. On a 3 ministres qui ont été battus hier, qui vont devoir être remplacés. On a une première ministre qui est fragilisée quand même, avec un résultat qui est mauvais à l'issue de ces législatives, seulement 52%. Et puis on a un gouvernement qui va devoir s'ouvrir justement à ce parti des Républicains d'une façon ou d'une autre. Le politique s'invite dans la conduite des affaires menées par Emmanuel Macron, ce qui n'avait pas été le cas dans son premier quinquennat.
Et ben voilà l'état des lieux ce midi. Jean-Thomas Le Sueur, donc pour l'Institut Thomas More. La question, elle est simple. Est-ce que ce pays va être gouvernable? Est-ce qu'Emmanuel Macron va avoir une majorité? Va la trouver, peut-être à droite, à gauche, pour faire passer ces grandes réformes dans les prochaines années. Jean-Thomas, comment est-ce que vous regardez la situation, vous, ce midi?
Je pense qu'aujourd'hui, la marche est extrêmement haute, parce que certains s'aventurent à comparer la situation à celle de Michel Rocard en 1988, mais il suffit de rappeler que il manquait à la majorité de Michel Rocard 13 députés, alors que là, il va en manquer près de 50, et je ne sais pas où Emmanuel Macron peut aller les chercher. Il y a quelques divers gauches hors NUP, peut-être. Le groupe LR, selon les informations qu'on a, il y a sans doute quelques personnes qui pourraient être tentées, mais pas 25, pas 30, pas 40. Donc très sincèrement, moi aujourd'hui, où est-ce que le président de la République peut trouver une ou des majorités, je suis assez sceptique.
Ça veut dire que pour vous, il doit faire le deuil des réformes. Enfin, c'est assez effrayant ce que vous nous dites. Il doit faire le deuil des réformes qu'il entendait mettre en place. On parle des retraites. Plus largement, il y en aura peut-être.
Mais vous savez, je vais être très franc, cher Guillaume, moi je trouve pas ça effrayant. C'est-à-dire que, pour le coup, la Chambre représente, si ce n'est très bien, du moins beaucoup mieux qu'auparavant, l'état politique réel du pays. Que ça pose des problèmes institutionnels et de majorité, j'entends bien, mais le premier sujet quand même, c'est de se dire que les Français sont représentés. Et il me semble, alors on peut raffiner, qu'ils le sont mieux cette fois-ci qu'en 2017. Je veux dire, là, du pays, si vous reprenez les analyses de Jérôme Sainte-Marie par exemple, ce sont des logiques de blocs sociaux, blocs élitaires contre blocs populaires, alors après on peut raffiner, etc. La réalité de notre pays, c'est quand même bel et bien qu'aujourd'hui, il y a à peu près 3 blocs, un bloc de gauche dure, un bloc central, un môle central, qui pensait pouvoir gouverner seul, un bloc élitaire, pour reprendre le vocabulaire de Jérôme Sainte-Marie, et un bloc plus droitier, qui est plus diffus d'ailleurs, tout ça n'est pas, est assez, avec des frontières floues, si je puis dire, mais Mais voilà, c'est la réalité du pays. Donc ça, il faut partir de là, si vous voulez. La vérité politique du pays, c'est ça. Après, qu'est-ce que Emmanuel Macron peut faire? Moi, à mon avis, il va être assez vite bloqué. Je vais être très franc, je pense que sa stratégie va être une stratégie de pourrissement qui va laisser l'Assemblée être la foire d'empoigne qu'elle risque d'être. 3 semaines, 3 mois, 1 an, je n'en sais rien, et qu'après, il pourra dissoudre pour essayer de retrouver une majorité. Pense que le scénario politique le plus sûr, c'est celui-là.
On va écouter Olivia Grégoire, un porte-parole du gouvernement, qui le disait ce matin. On va essayer quand même de trouver des terrains d'entente pour faire passer des réformes. Écoutez Olivia Grégoire.
Ce sera donc compliqué, il va falloir de l'imagination, de l'audace, de l'ouverture, c'est une évidence.
À droite.
Et on va... où il faudra, et ça ce sont des discussions qui auront lieu dans les prochaines heures, qui seront menées par le Président de la République, par la Première Ministre, il faudra qu'on ouvre à toutes celles et ceux qui veulent faire avancer le pays. Je vais vous dire ce matin, c'est même pas la porte-parole là, c'est la citoyenne, ma hantise Nicolas Demorand, ma hantise, c'est que ce pays soit bloqué, c'est ma seule hantise.
Voilà, risque d'être bloqué à vous entendre, Jean-Thomas, vous restez avec nous, Antoine Fouché, bonjour, bienvenue, avocat, président du cabinet Quintet de Conseil, je rappelle que vous êtes ancien directeur de cabinet de Muriel Pénicaud quand elle était au ministère du Travail rue de Grenelle. Ingouvernable la France, est-ce qu'il faut faire son deuil des grandes réformes qu'Emmanuel Macron entend faire passer dans les 5 prochaines années, la réforme des retraites notamment, plus d'autres éventuellement à venir? Comment est-ce que vous regardez la situation, vous, aujourd'hui, finalement?
Non, je pense que c'est beaucoup trop tôt pour le dire. Là, vraiment, bien malin celui qui pourrait expliquer comment est-ce que va fonctionner la France dans les pays dans les années qui viennent. Ce qui a été souligné, c'est que c'est inédit. Et effectivement, c'est inédit, cette situation-là, avec un gouvernement qui est mis en minorité, même s'il a le plus grand groupe, il n'a pas la majorité à ce point-là. En 88, il y avait eu ça, mais il y avait quand même 275 députés. Là, il y en a 32 moins, 29 de moins. Donc, c'est quand même beaucoup. On ne sait pas, puisque ça ne s'est jamais produit depuis 58, on ne sait pas comment ça va se dérouler. Et je pense que c'est vraiment ça aussi, en même temps, qui est intéressant. On a très peur que ça soit ingouvernable. C'est une possibilité, hein. Faut pas se cacher derrière son petit doigt. C'est possible qu'on soit dans une situation de blocage, mais on va peut-être aussi trouver d'autres solutions, puisqu'on n'a jamais été face à une situation comme ça. On a pendant longtemps, on a entendu beaucoup de critiques, parfois à juste titre, hein, sur le fait que il y avait une pratique du pouvoir qui était trop verticale, oui, trop directive, etc. On dit bon, ça serait bien qu'on discute d'un contrat de coalition comme dans les pays d'Europe du Nord.
Oui, mais on est en France.
Certes, mais enfin, on a été un régime. Bon, là, d'abord, on est encore un régime parlementaire, on le voit, mais oui, on a eu un fonctionnement parlementaire, disons pendant 70 ans au moins, entre 1870 et 1940, la France, elle s'en est remise. Enfin, je veux dire, on est quand même, elle a quand même été gouvernée. On a gagné une guerre mondiale pendant à ce moment-là. Donc, je veux dire, ne soyons pas non plus catastrophistes. Le fait de discuter de grandes options politiques pour l'avenir du pays et de le faire publiquement, c'est pas quand même non plus une régression démocratique.
Hein. Non, mais sans pas de régression, ne serait-ce que sur les prochains mois, il y avoir notamment 2 sujets au Parlement, c'est la réforme des retraites et la préparation du budget 2023. Sur la réforme des retraites, vous dites quoi, vous, aujourd'hui? Elle passera, cette réforme, mais amendée? Peut-être un peu plus.
Non, mais. C'est une vraie question, mais ça.
C'est avec les LR que ça va se jouer. On est d'accord.
Arithmétiquement, on ne voit pas très bien comment on va faire pour ne pas aller chercher les 64. Voilà. Une partie des 64 députés, effectivement, LR.
Donc, quand Mme Macron disait 65, oh, puis peut-être 64, non, on va revenir vers quelque chose autour de 65 pour vous. C'est ça qui va se jouer du côté d'Emmanuel Macron pour l'emporter, finalement, au final?
L'âge sera un des sujets,
oui,
parce que c'est
pas
une
le seul.
Pas le seul. Ah, mais je sais pas, parce que il peut y avoir. Ça dépend quel est l'objectif. Soit c'est un symbole, soit on fait de cette réforme-là un symbole en disant il faut remonter à 63, 64, 65, et c'est plus important que le fond. Mmh. Soit ce qui est important c'est le fond, c'est-à-dire le pacte intergénérationnel. Quelle est la part de la richesse nationale qu'on donne aux plus âgés et quelle est celle qu'on donne aux plus jeunes? Et à ce moment-là, il peut y avoir d'autres solutions, typiquement l'accélération de ce qu'il appelle Touraine, c'est-à-dire monter à 43 ans plus rapidement, ou aller jusqu'à 44 ans. Et ça, ça rapporte aussi de l'argent. C'est pas de la même, pas à la même vitesse, mais à terme, si on travaille tous 44 ans, ça va évidemment permettre de dégager des ressources qui peuvent aussi cocher la case ou une partie de la case financière. Mais c'est là aussi où ça va être intéressant, parce que si on fait des fixettes sur les symboles, on va pas y arriver. Si on s'entend sur les objectifs politiques,
LR va avoir besoin de symboles aussi. Ils veulent exister, ces gens-là.
Ça va être la discussion à un moment donné. Si on dit on veut faire avancer le pays, l'intérêt général, et quand c'est l'intérêt général du pays, on vote. Quand c'est idéologique, on vote pas. Bon, bah chiche. Voyons ce que ça donne, par exemple, sur une réforme comme sur les retraites. Je dis pas que c'est ça qui va se passer.
Oui, bien sûr.
Je dis qu'on peut trouver des manières de se mettre d'accord sur des objectifs d'intérêt généraux, ce qui fait que tout le reste et toutes les modalités deviennent discutables.
Il y aura les retraites et puis il y aura la loi de finances rectificative qui va arriver début juillet. Là aussi, Thomas, ça va être un des premiers crash tests, ça aussi, finalement.
Le calendrier est à confirmer. C'est-à-dire qu'au tout départ, au lendemain du scrutin présidentiel, on nous parlait du 29 juin. Là, maintenant, c'est décalé au 6 juillet pour tenir compte du Conseil national de la représentativité qui doit démarrer normalement ce mercredi, le 22 juin. Rien n'est moins sûr. On nous dit toujours que c'est maintenu à cette date, mais c'est tout à fait possible que ce soit décalé au vu du résultat qui est sorti des urnes hier et de toutes les discussions politiques qui en découlent, à la fois pour composer l'Assemblée et pour composer le nouveau gouvernement. Donc peut-être que tout ça va encore prendre du retard. Et effectivement, après, qu'est-ce qu'on aura dedans ? La seule certitude, c'est que ça va coûter très cher. Ça va coûter entre 10 et 20 milliards d'euros pour maintenir le bouclier tarifaire contre l'énergie, pour maintenir des aides liées au prix du carburant, pour maintenir aider les Français à se nourrir, et puis tout un tas de revalorisations liées à l'inflation, les retraites, les minima sociaux. Il y a la question du logement qui reste en suspens. Voilà, tout ça va se chiffrer encore en milliards. Que vont en penser effectivement les potentiels alliés LR, eux qui accusent de cramer la caisse.
Justement, les LR, ils seront au cœur de la réflexion dans les prochaines semaines. Que va demander LR ? Est-ce que notamment Madame Borne peut rester en poste du côté de Matignon ? Écoutez ce que disait Emmanuel Bompard ce matin pour la France Insoumise. Lui pense qu'elle doit partir, tout simplement.
Normalement, Madame Borne devrait partir. Le premier résultat de l'élection législative d'hier, c'est que le gouvernement tel qu'il a été constitué par Emmanuel Macron ne peut pas continuer à gouverner comme si de rien n'était et comme si on n'avait pas entendu le signal des électrices et des électeurs.
Voilà, Emmanuel Bompard ce matin sur BFM TV. Jean-Thomas Le Sueur, est-ce qu'il va falloir sacrifier Madame Borne pour s'attirer les grâces de LR ? Et au-delà de ça, quand on est LR aujourd'hui, qu'est-ce qu'on se dit ? Quelle stratégie pour les 5 prochaines années ? Est-ce qu'on fait de l'opposition frontale ? Ou est-ce qu'on accepte de faire l'opposition constructive avec la majorité relative d'Emmanuel Macron, finalement ?
Je vais vous répondre, mais permettez-moi un mot sur ce que vous avez dit précédemment. Vous parlez quand même un peu du sexe des anges. C'est-à-dire que vous avez 53% des Français qui n'ont pas voté. Vous avez, encore une fois, je reprends la lecture de Jérôme Sainte-Marie, deux blocs populaires contre un bloc élitaire. Et vous êtes en train de vous demander comment il faut amender la réforme des retraites pour qu'elle passe. Je pense qu'on n'en est vraiment pas là, quoi. Donc Jérôme Day, on a en fait l'anomalie dans la vie politique française maintenant, c'est la présidentielle. On a là, grâce à ces législatives, la réalité de l'état politique du pays. C'est d'abord 50% des Français qui ne votent plus fermement, définitivement, solidement, donc ça c'est quand même un vrai gros sujet. Et ensuite vous avez cette logique, encore une fois, de trois blocs. Comment est-ce qu'on gouverne un pays comme ça ? C'est le sujet. Et donc, c'est le seul sujet qui devrait nous occuper. Et donc, et je commence à y répondre en vous répondant à votre question sur LR. Moi, je vais vous dire, LR, aujourd'hui, est, comme tout le monde le dit, en position centrale parce qu'il peut être le dernier pont entre ces deux fameux blocs. S'il rallie définitivement la Macronie et qu'il ferme la porte derrière lui, je vous le dis, le pays est très très mal. Et très très mal parce que c'est la victoire définitive d'Alain Minc et de son cercle de la raison, c'est-à-dire les gens raisonnables gouvernent entre eux contre les blocs populaires. Et là, je ne sais pas où ça finit. Donc le sujet des LR, c'est évidemment de rester la porte ouverte entre ces différents mondes. S'ils faisaient un autre choix, je n'ai pas l'impression qu'ils en prennent le chemin. Je pense que Jean-François Copé, par exemple, est assez seul. Et de ce que je crois savoir des députés élus hier, il y en a peut-être 4-5 qui seraient tentés par un Marocain ministériel, par exemple. Mais la plupart des députés LR savent qu'ils ont élu sur une ligne très nettement anti-macroniste. Très nettement anti-macroniste. Donc je pense que les LR sont effectivement centraux, vous avez raison, et qu'ils le demeureront s'ils ne rallie pas la Macronie. Après, ça ne veut pas dire que sur certains textes, on ne peut pas se mettre d'accord, mais comme c'est déjà le cas régulièrement, dans la précédente mandature, ça a été le cas de temps en temps. Mais je crois nécessaire à la vie démocratique française que ce parti ne rallie pas la majorité.
Bon. Antoine Fouché, comme vous entendez cet avis tranché de Jean-Thomas le soir.
Deux points, parce que je crois pas qu'on soit en désaccord sur la remarque qui vient d'être faite sur les retraites. C'est-à-dire, ce qui serait lunaire, ce serait de se dire, bon alors, on avait dit 65, maintenant, est-ce que c'est 64? Et puis de focusser le débat juste là-dessus, enfin de restreindre le débat uniquement à cette considération-là, ça, je pense que ça serait ne pas entendre ce qui s'est passé. Et, même avant ces résultats, c'était peut-être déjà pas entendre ce qui se passe dans le pays. Mais si justement on prend la question de façon plus large, qui intéresse tous les partis et la population entière, c'est de savoir quelle est la place qu'on donne, quel est le contrat intergénérationnel dans notre pays, entre la part de la richesse qu'on consacre à nos aînés et la part de la richesse qu'on consacre à nos jeunes. Ça, c'est une vraie question politique et dont le débat 64-65 devient une toute petite sous-catégorie. Et importante, mais une petite sous-catégorie.
Et vous savez quoi, les symboles sont importants pour des...
Oui. Non, mais c'est vrai. Mais c'est justement ça. C'est-à-dire, et là où je peux rejoindre l'analyse qui vient d'être faite, c'est que si on reste prisonnier de nos symboles qui concernent en fait que le microcosme politique, en l'occurrence là, pour le coup, LR, on n'y arrivera pas. Mais si on pose le débat de façon compréhensible et à la fin simple, compliqué à résoudre, mais simple à poser, je pense que c'est beaucoup plus gouvernable. Et sur la position LR, je partage ce qui a été dit, c'est-à-dire que ça va être et je pense que c'est ce qui va se passer. Ça m'étonnerait, enfin c'est politique fiction encore, donc faut faire vraiment très très attention. Mais ça m'étonnerait qu'on ait un contrat de coalition parce que ça serait la dissolution de LR dans la majorité. Ça m'étonnerait non plus que quand il y a des axes de convergence, ils soient dans l'opposition systématique, contraire à l'intérêt du pays, et donc du coup facteur de blocage. Donc être un pont entre les deux, pourquoi pas, mais c'est ça qui va se passer dans les semaines, dans les mois qui viennent. Peut-être juste un point sur Borne ou pas Borne.
Oui.
Est-ce que Elisabeth Borne doit rester Premier ministre ou pas? On va être là aussi, tout est ouvert, mais surtout on va être fixé dans les semaines qui viennent avec le discours de politique générale.
5 juillet, hein, Thomas.
5 juillet. C'est l'attente de la Constitution. La confiance. Quand on n'a pas la confiance, on doit démissionner. C'est en toute lettre dans la Constitution.
Mais la Constitution prévoit aussi qu'on peut ne pas solliciter la confiance.
Ne pas solliciter. Est-ce que vous dites qu'il faut l'assumer, ça,
sans solliciter la confiance dans un régime parlementaire? Là, pour le coup, et puis en plus, est-ce que vraiment ce serait raisonnable,
politiquement,
et démocratique de faire ça? J'engage une action, mais je sollicite pas la confiance parce que je suis pas sûr de l'avoir.
Je rappelais juste cette possibilité existait.
Mais c'est vrai qu'elle existe. Jean-Thomas, je voulais réagir à ce qui venait d'être dit.
Oui, non, je remets pas en cause les qualités personnelles d'Elisabeth Borne, mais je pense que je redis qu'on n'est pas dans la situation de 88, il va manquer plus de 45 députés. Je pense que le président de la République aurait intérêt à avoir un Premier ministre très politique plutôt que techno, parce que ça va être très politique tout ça.
Oui.
Donc, encore une fois, je ne connais pas le Premier ministre, je ne mésestime pas ses qualités personnelles, elle a quand même un profil ultra techno. Donc, je redis, parce que c'est surtout ça le plus important, 45 députés à trouver à chaque fois, pas 13. Donc, pas simple du tout.
Il va falloir avoir le charisme, la connaissance des arcanes de l'Assemblée et tout ce qui va avec. Oui, Thomas.
Oui, d'ailleurs, pour rebondir, ça relance Olivier Véran. Au lendemain de l'annonce du gouvernement, il dit un ministre de la Santé très exposé. Bon, là, il a un petit ministère, relations au Parlement.
Oui.
Là, il se retrouve chevalier ouvrière et avec un poste absolument clé, au vu de ce qui est sorti des urnes hier. C'est lui qui va devoir aller chercher quand même.
Absolument.
Enfin, il va avoir son mot à dire là-dessus. Je voulais poser une question à vous deux. On parle assez peu, finalement, de la situation autour de nous. On voit bien que là, on parle effectivement de. Depuis hier, on phosphore sur est-ce que la France est capable de gouverner à plusieurs ce contrat de coalition. Le fait est que c'est ce qui se passe chez tous nos voisins, en Allemagne, en Italie, en Espagne, avec une réussite quand même toute relative. Est-ce que ça n'a pas été vous qui avez été aux manettes, justement? Est-ce que ça n'a pas été un avantage pour la France de pouvoir courir plus vite? Parce qu'on a pu aller vite avec justement une majorité forte, on n'a pas eu à devoir trouver à chaque fois du consensus, et qui nous a permis de rattraper le retard, on le voit, compétitivité retrouvée, attractivité retrouvée aux yeux de l'étranger. Est-ce que ça n'a pas été une force pour la France de pouvoir aller vite et rattraper le quelque part aller plus vite que nos voisins qui, eux, perdaient du temps à devoir trouver à chaque fois du consensus?
Sur les trois premières années, peut-être, mais enfin là, évidemment, je suis un peu jugé parti, donc ça va. Il faut prendre avec des pincettes ce que mon analyse. Mais si on essaye de regarder les choses de façon objective, c'est sûr que en deux ans, d'ailleurs, plus que trois ans, parce que la dernière année, ça a été vraiment prise par le Covid, la France a réalisé un certain nombre de réformes qu'on pensait impossibles depuis 30 ans, que d'autres pays avaient mis 10 ans à faire, et nous, on les a faites en deux ans. Bon, et ça c'est factuel. Après, on peut être pour ou contre ces réformes, mais ça c'est factuel et donc ça donne raison à ce que vous venez de dire. Après, les opposants diraient oui, mais ces réformes-là ont été vécues ou en tout cas une partie d'entre elles, parce que je pense que par exemple la réforme de l'apprentissage, qui était un big bang, et personne ne l'a remis en cause, enfin ou très très peu de personnes l'a remis en cause, voudrait revenir à moitié moins d'apprentis dans le pays aujourd'hui. Mais elle a peut-être été vécue par un certain nombre comme un passage en force. Et donc si maintenant on revient à une situation de blocage, est-ce qu'au final, sur 8-10 ans, peut-être qu'il y a eu deux années très rapides, une année de gestion de Covid, deux années de re-gestion de Covid, et après maintenant quelque chose de plus difficile. Et donc au final, en 10 ans, nous aussi on aura mis 10 ans à faire des réformes, même si la vitesse se sera concentrée sur les deux ans. Donc, mais je pense que surtout là, ce qui est en train de se passer, c'est que on change peut-être d'époque, enfin moi c'est l'hypothèse que je mets sur la table, et qu'on va être obligé collectivement de sortir de cette opposition entre les mondialistes et les anti-mondialistes, entre les pro-européens et les anti-européens. Et il va falloir quand même trouver une voie de passage et de dialogue entre tous ces gens-là, parce que là on est vraiment, je pense que l'analyse sociologique est assez juste, on est bloc contre bloc,
oui.
Même si le bloc populaire est divisé en deux, et donc il va falloir qu'on dialogue quand même d'une manière ou d'une autre ensemble pour trouver des voies de passage, parce que aucun bloc n'a la légitimité pour imposer ses solutions à l'autre moitié du pays.
Jean-Thomas le disait effectivement à l'instant, oui, ce qu'on vit aujourd'hui, c'est ce que beaucoup de pays, nos voisins européens, vivent finalement, parlement représentatif d'une certaine façon.
Moi je serais moins positif que Monsieur Fouché sur les trois premières années. J'ai quand même pas l'impression que le début du quinquennat avant Covid ait été si brillant que ça en matière de réformes socio-économiques. Je pense à la réforme de l'impôt, la fiscalité, la réforme de l'État, etc. On n'a quand même pas vu grand chose. Donc je veux dire l'efficacité. Enfin bon, moi je suis très sceptique sur l'efficacité de la Ve République, sur tout ce qu'on nous a vendu depuis des décennies. Mais c'est pas le lieu d'en parler. Donc je veux dire de toute façon. Je crois qu'aujourd'hui, ce qu'il faut mettre en haut de l'échelle de nos préoccupations, c'est pas la question du régime, même si c'est un sujet important, c'est la question de la crise démocratique. Et ça, je crois que la plupart des pays occidentaux, États-Unis compris, Royaume-Uni compris avec le Brexit, etc., nous, toutes les démocraties sont aujourd'hui en crise. Et dans toutes les démocraties, vous avez sous des formes différentes naturellement, mais vous avez cette logique de bloc qui s'affronte, dont on a beaucoup parlé ensemble aujourd'hui. Et donc là, je veux bien rejoindre Monsieur Fouché. Le seul sujet aujourd'hui, c'est comment on fait pour se parler, comment on fait pour se reparler, comment on fait pour refaire commun, pour employer un vilain vocabulaire, et pour que les Français se reparlent, qu'on mette un peu moins de tension dans le pays, que le pays soit un peu plus apaisé, parce qu'effectivement, un, beaucoup de réformes n'ont pas été faites et elles sont devant nous, et deux, la situation est internationale et économique est plus qu'inquiétante pour les mois et les années qui viennent.
Beaucoup de réformes sont devant nous. Antoine Fouché, il nous reste une grosse minute pour conclure. S'agissant de cette réforme de retraite qui va quand même nous occuper, quoi qu'on en dise dans les prochains mois...
Ne pas lâcher, Guillaume.
Absolument.
Pourtant, il en est loin des retraites.
Oui. Est-ce que, pour vous, c'est une réforme qu'il va falloir mener véritablement parce que nous finirons bien peut-être par être sous l'œil des marchés financiers? On voit qu'il n'y a pas d'agitation aujourd'hui sur les marchés obligataires, mais est-ce que c'est la réforme, quand même, vous dites, la réforme des retraites qui, aux yeux des marchés, sera celle qui permettra de faire passer la pilule du quoi qu'il en coûte, finalement, en France, et qu'il va falloir mener sous... réserve de voir les marchés financiers nous regarder autrement, finalement. Est-ce que pour vous, il y a un sujet là dans les prochains mois?
Le sujet, c'est que on est à nouveau sous le regard des marchés financiers. Réforme des retraites ou pas? Ce que je veux dire, c'est que le sujet plus largement que les retraites, c'est l'endettement public.
C'est
le niveau
public,
d'endettement public.
On approche des 3 000 milliards.
Le niveau de déficit, et ça, on l'a vu depuis que la BCE a commencé à relever ses taux, on peut être très vite dans une situation où, en fait, on ne peut pas plus financer nos déficits. Et donc ça veut dire, pour être concret, sans vouloir être trop catastrophique, mais à la fin, ça arrive à ne plus pouvoir payer les pensions, voilà, si on reprend les retraites. Donc, même si c'est très peu probable qu'on en arrive là, mais quand même, à un moment donné, si l'argent qu'on nous prête est trop cher, à un moment donné, on ne peut plus emprunter. Ouais, c'est mathématique. Donc la question va être celle-là. Est-ce que la réforme des retraites, c'est la réforme que les marchés vont regarder? Mais je vais être un peu provocateur et dire, ça serait pas une bonne raison pour la faire si c'était les marchés qui nous la dictaient. Voilà. Parce que c'est justement parce que on donne le sentiment de faire des réformes, non pas pour l'intérêt général, mais pour les marchés. Il y a toute une partie qui a quitté la politique et qui soit s'abstient, soit vote pour le bloc contestataire. Donc s'il y a une raison de faire la réforme des retraites, encore une fois, c'est parce que on est On est le troisième pays du monde qui dépense son le plus de dépenses oui. pour nos aînés et le 14e pour nos jeunes. Est-ce qu'on en reste là? Est-ce que c'est une bonne manière de préparer l'avenir? Ça, c'est une vraie raison de poser la réforme des retraites. Beaucoup moins que celle des marchés financiers. Les marchés financiers, il va falloir, c'est la question vraiment de l'endettement public, mais on peut faire des économies sur les retraites, on peut en faire ailleurs aussi. Ouais. Donc voilà, c'est, je pense qu'il faut vraiment poser les choses dans le bon ordre et dire la vérité au pays. Oui, on ne peut pas continuer à s'endetter comme ça parce qu'on vit au-dessus de nos moyens, mais oui, aussi, on ne peut pas continuer à privilégier les aînés sur les jeunes. Parce que même si ça n'a pas été posé pendant le débat présidentiel, c'est ce qu'on fait de fait. De fait, c'est ce qu'on fait collectivement.
Voilà, beaucoup de défis, beaucoup de questions devant nous. Merci messieurs d'avoir été avec nous ce midi, Antoine Fouché, président de Quintet Conseil. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci Jean-Thomas. Jean-Thomas Le Sueur, directeur général de l'Institut Thomas More. Merci à Thomas. Thomas Asportas avec nous sur BFM Business. Il est midi 25. On va sur les marchés tout de suite. Retrouver Antoine depuis Euronext à la Bourse de Paris. Bonjour Antoine. Séance assez calme pour l'instant, a priori, à la Bourse. Hein.
Bonjour Guillaume. Oui, très très calme. Déjà, au vu des volumes d'échanges, on n'est même pas à 800 millions d'euros d'actions négociées. Faut dire qu'il n'y a pas de séance du côté de Wall Street hein, cet après-midi. C'est jour férié aux États-Unis, donc du coup, on est un peu en déficit de volume. À noter que, véritablement, le résultat des élections législatives n'a pas d'effet hein, sur ce qui est en train de se passer sur les marchés. Ça, on a eu en tout début de séance. Pour être très honnête, on a eu quelques petits points de base de tension sur la dette française 10 ans. On est monté jusqu'à 2,25. Là, on descend à 2,22%. Après avoir clôturé à 2,20 vendredi, donc vraiment un impact minimal. 1,65 pour la dette allemande de même échéance. Non, le chiffre vraiment à retenir ce matin sur les marchés, mais vraiment, c'est le pétrole. Le pétrole est en train de dégringoler. Il y a quelques temps, on était vraiment à 120 dollars, voire plus. On n'est plus qu'à 113 sur le Brent de mer du Nord, 108 pour le brut léger américain, et une correction marquée sur l'ensemble des matières premières industrielles ce matin en Asie, notamment tout ce qui concerne le fer et l'acier. Donc ça, c'est à noter. Le CAC 40 lui est en hausse de 0,26%, on est à 5898 points, hausse un tout petit peu plus franche du côté de l'Eurostox qui gagne 0,46%, le DAX plus 0,44%. En tête des progressions du CAC, c'est Renault qui gagne 7,5% à 25,86€, alors avec le courtier américain Jefferies qui fait l'actualité en étant à l'achat sur le titre Renault, mais alors avec un objectif de cours à 60€, donc plus du double. Donc là, ça fait vraiment grimper le titre Renault. À noter des valeurs de croissance qui sont aussi aux avant-postes, hein. Hermès gagne 3,1% à 1004€, mais aussi des valeurs défensives. Thalès plus 2,80 à 115,35€. On a Total, malgré la baisse des prix du brut, qui gagne 1,8% à 50,26€. Et puis en tête des progressions du SBF 120, c'est Valneva. Les marchés saluent l'entrée au capital de Valneva, l'américain Pfizer, le grand laboratoire américain. Et Valneva gagne 21% à 9,60€. Les valeurs à la baisse, des valeurs liées aux matières premières. Rexel, moins 6,9% à 16,48€. Saint-Gobain, moins 4,86 à 43,59€. Veralia, moins 3,4 à 23,28€. Et sinon, à signaler, Bouygues, moins 1,5% à 30,63€, ou Schneider Electric, moins 55 à 113,98€. Le CAC, plus 0,27, 5898. Du côté de l'euro, on reste fermement au-delà d'un 0,5 à 1,0529. Et puis, attention au Bitcoin qui s'est écroulé ce week-end du côté des 17 000 $. Là, on est un peu remonté du côté des 20 000, mais enfin, la semaine commence très, très mal pour les crypto-monnaies.
Merci beaucoup, Antoine. Antoine Larrigaudré, depuis le siège d'Euronext à la Défense. Demain, Antoine, avec plaisir, comme tous les jours, bien évidemment. Midi 28, on marque une petite pause. Je vous donne les grands titres de l'actualité. Et puis, dans la foulée, bien sûr, c'est Thomas Schnell qui nous rejoint à BFM Business avec vous, comme tous les jours, en direct. À tout de suite. Il est un peu plus de midi et demi sur BFM Business. Dans l'actualité, donc, la grande question, la France va-t-elle être ingouvernable au cours des 5 prochaines années? Je vous rappelle les résultats du second tour des législatives. Ensemble, récolte 245 sièges. Emmanuel Macron peut espérer trouver un terrain d'entente sur cette réforme avec les LR et UDI qui totalisent 64 sièges. Mais ça sera dur malgré tout de faire passer les réformes. C'est ce que nous disait Jean-Thomas Le Sueur, le directeur général de l'Institut Thomas More, tout à l'heure. Écoutez.
Je pense qu'aujourd'hui, la marche est extrêmement haute parce que certains s'aventurent à comparer la situation à celle de Michel Rocard en 1988, mais il suffit de rappeler qu'il manquait à la majorité de Michel Rocard 13 députés, alors que là, il va en manquer près de 50. Et je ne sais pas où Emmanuel Macron peut aller les chercher. Il y a quelques divers gauches hors NUP, peut-être. Le groupe LR, selon les informations qu'on a, il y a sans doute quelques personnes qui pourraient être tentées mais pas 25, pas 30, pas 40. Donc très sincèrement, moi aujourd'hui, où est-ce que le président de la République peut trouver une ou des majorités, je suis assez sceptique.
Ça veut dire que pour vous, il doit faire le deuil des réformes. Parce que c'est effrayant ce que vous nous dites. Il doit faire le deuil des réformes qu'il entendait mettre en place. On parle des retraites. Plus largement, il y en aura peut-être...
Vous savez, je vais être très franc, cher Guillaume, moi je trouve pas ça effrayant. C'est-à-dire que, pour le coup, la Chambre représente, si ce n'est très bien, du moins beaucoup mieux qu'auparavant, l'état politique réel du pays. Que ça pose des problèmes institutionnels et de majorité, j'entends bien, mais le premier sujet quand même, c'est de se dire que les Français sont représentés. Et il me semble, alors on peut raffiner, qu'ils le sont mieux cette fois-ci qu'en 2017. Je veux dire, là, du pays. Si vous reprenez les analyses de Jérôme Sainte-Marie, par exemple, ce sont des logiques de blocs sociaux, blocs élitaires contre blocs populaires, alors après on peut raffiner, etc. La réalité de notre pays, c'est quand même bel et bien qu'aujourd'hui, il y a à peu près trois blocs, un bloc de gauche dure, un bloc central, un môle central, qui pensait pouvoir gouverner seul, un bloc élitaire, pour reprendre le vocabulaire de Jérôme Sainte-Marie, et un bloc plus droitier, qui est plus diffus d'ailleurs, tout ça n'est pas est assez... avec des frontières floues, si je puis dire, mais voilà, c'est la réalité du pays. Donc ça, il faut partir de là, si vous voulez. La vérité politique du pays, c'est ça. Après, qu'est-ce que Emmanuel Macron peut faire? Moi, à mon avis, il va être assez vite bloqué. Je vais être très franc, je pense que sa stratégie va être une stratégie de pourrissement qui va laisser l'Assemblée être la foire d'empoigne qu'elle risque d'être. 3 semaines, 3 mois, 1 an, je n'en sais rien, et qu'après, il pourra dissoudre pour essayer de retrouver une majorité. Pense que le scénario politique le plus sûr, c'est celui-là.
Voilà, Jean-Thomas Losseur, directeur général de l'Institut Thomas More, qui était avec nous tout à l'heure dans 60 minutes business. La Bourse de Paris, elle est calme ce midi. Le CAC 40 grappille en ce moment 0,35%. 5 903 points en ce moment pour l'indice parisien. Midi 34, BFM Business avec vous, c'est parti.
60 minutes business. BFM Business avec vous.
Avec vous, avec nous et avec Thomas Schnell comme tous les jours. Bonjour mon cher Thomas.
Bonjour Guillaume, bonjour.
Bienvenue,
à tous.
Je vous rappelle les modalités évidemment comme toujours pour nous écrire, nous poser des questions, nous faire des offres d'embauche. Hashtag BFM Business avec vous, les réseaux sociaux. Avec vous, @bfmbusiness.fr, l'adresse internet, le site bfmbusiness.com et tout ça, bien sûr, c'est totalement gratuit. De quoi est-ce qu'on parle, Thomas, pour débuter la semaine?
On est lundi, comme toutes les semaines, on commence avec les questions en droit social. Elles sont nombreuses, ces rafales de questions, avec... pour nous accompagner sur ce plateau, Florian Carrière. Bonjour.
Bonjour.
Bonjour Florian, bienvenue.
Avocat chez Voxus, le cabinet. Avec cette première question, une double question de Laurence, qui a quelques difficultés avec son employeur, visiblement. Elle est tombée malade pendant longtemps. Pendant la pandémie, elle se demande si son employeur a le droit de licencier un salarié en longue maladie pour motif économique. Ça a été son cas. Qu'est-ce qu'on peut lui répondre, Florian?
Alors, si je puis me permettre, il manque une donnée du problème. Puisqu'on ne sait pas si cette téléspectatrice a été en arrêt de travail pour maladie d'origine professionnelle ou non. Donc, ce que je propose, c'est de distinguer. Si nous sommes sur un arrêt de travail d'origine professionnelle, c'est-à-dire qui fait suite à un accident du travail ou une maladie professionnelle dans l'entreprise, qui a été reconnue par la Caisse primaire d'assurance maladie, dans ce cas-là, effectivement, il y a une protection particulière qui fait que l'employeur ne peut licencier son collaborateur que s'il justifie soit d'une faute grave, ce qui ne sera évidemment pas le cas ici, soit d'une impossibilité de maintenir le contrat de travail. Et la Cour de cassation nous dit de façon constante que l'arrêt maladie ne constitue pas une impossibilité de maintenir le contrat. Donc dans cette situation-là, il y a une impossibilité de licencier pour motif économique, avec une exception qu'on comprend bien, c'est lorsque c'est l'entreprise qui ferme. S'il y a une cessation totale et définitive d'activité, dans ce cas-là, le licenciement économique est possible. Et pour conclure sur la deuxième hypothèse, si nous sommes sur un arrêt de travail d'origine non professionnelle, dans ce cas-là, il n'y a aucune protection particulière. Ouais. Et donc, un salarié en arrêt maladie peut parfaitement faire l'objet d'un licenciement pour motif économique.
Donc, c'est possible, mais ça reste circonscrit donc en fonction de maladie professionnelle ou non. Maintenant qu'elle est licenciée, est-ce qu'elle peut consulter la médecine du travail pour faire face aux décisions du médecin de la sécurité sociale sur son état de santé?
Alors, c'est une question qui est assez originale, parce que je n'ai jamais eu à traiter le cas. À mon sens, non. À mon sens, non, pour deux raisons. La première, c'est que les services de santé au travail sont là pour assurer le suivi de l'état de santé des salariés liés par un contrat de travail avec une entreprise adhérente, ce qui ne serait pas, ou plus exactement, plus le cas ici. Et la deuxième, c'est que tout cela a un coût, et qui est supporté par les cotisations des entreprises adhérentes. Et donc, bien souvent, d'ailleurs, dans les conventions passées entre l'entreprise et le service de santé au travail, il est précisé que l'employeur doit informer les services lorsque le contrat de travail d'un salarié est rompu. En revanche, ce qui est tout à fait possible à tout moment, c'est de demander le transfert de son dossier médical. Là, il n'y a aucune difficulté. Et puis, pour conclure, Si je comprends bien en fait sa problématique, c'est qu'elle a reçu une visite d'un médecin contrôleur qui lui a dit votre arrêt de travail n'est pas ou plus justifié. Donc on cesse le versement des indemnités journalières de sécurité sociale. Si elle veut contester cette décision, ça ne relève pas du médecin du travail, ça relève de la commission médicale de recours amiable. Elle a dû recevoir un courrier de la CPAM lui indiquant la fin du versement des IJSS. Et dans ce courrier, il est indiqué, en principe, qu'elle peut saisir la CMRA. Et attention, parce qu'il y a un délai de 2 mois pour saisir la commission à compter de la réception du courrier.
En cas de recours, donc la médecine du travail. On y reste avec une question très précise de Vincent qui nous a écrit et qui se demande s'il doit bien payer 120 euros parce qu'un de ses employés a raté son rendez-vous avec la médecine du travail.
Et oui. Oui. C'est assez surprenant, mais effectivement, c'est à l'employeur de s'assurer que ses salariés répondent aux convocations pour la médecine du travail. Et donc, quand ils ne le font pas, il y a une pénalité qui est appliquée. Et je précise d'ores et déjà que l'employeur ne peut pas ensuite répercuter cette pénalité sur le bulletin de paie du salarié.
Ah, donc c'est l'employeur qui paye que le salarié n'ait pas honoré le rendez-vous à la médecine du travail.
Exactement. En revanche, ce que peut faire l'employeur, c'est user de son pouvoir disciplinaire, parce que le salarié, lui, il est censé répondre aux convocations. Et donc, on peut adresser notamment un avertissement. Et la Cour de cassation nous dit, en cas de refus réitéré du salarié de répondre aux convocations, un licenciement est tout à fait possible.
C'est envisageable. Une question.
Et c'est bon à savoir.
C'est bon à savoir, il faut se méfier. 120 euros, ça peut coûter. Ouais. D'autant si c'est répété. À quelques semaines maintenant des grandes vacances, des vacances d'été, des vacances scolaires, certaines entreprises vont fermer de manière annuelle pendant plusieurs semaines. Et Kaina se demande si son employeur a le droit de lui imposer 4 semaines de congés payés.
Alors la réponse, elle est oui. Oui. Et re-oui, j'insiste là-dessus, parce que souvent j'entends dire que l'employeur ne pourrait pas imposer des congés payés à ses salariés. L'employeur est tout à fait maître dans la fixation des congés. Pour schématiser, il y a 3 grandes règles à respecter, bien sûr. La première, c'est la période du congé principal, c'est-à-dire que tous les salariés doivent pouvoir bénéficier de congés entre le 1er mai et le 31 octobre. La deuxième, c'est que l'employeur, quand il y a un CSE, doit le consulter sur la période de départ en congé et l'ordre des départs. Et la troisième, c'est que les 5 semaines de congés payés dont on bénéficie tous, enfin, quand on est salarié en principe, doit être pris en 2 fois. Il y a une première période, la plus importante, qui peut aller jusqu'à 4 semaines, donc ça répond précisément à la question, et la 5e semaine qui va être prise à part. Donc 4 semaines, c'est le maximum que l'employeur peut imposer. En revanche, si la question avait été « mon employeur me dit que l'entreprise sera fermée pendant tout l'été et qu'il m'impose de prendre mes 5 semaines de congé », là, en revanche, ce n'est pas possible.
On a donné un petit peu plus de latitude au chef d'entreprise à la sortie du confinement, je crois, il y a 2 ans, effectivement, pour être...
La prise des congés payés, qui n'avait pas pu être pris du fait de la période de confinement, de l'activité partielle également.
On est revenu à la situation normale.
Exactement.
D'accord.
Florian, vous avez parlé du CSE. C'est envisageable pour un salarié de saisir, entre guillemets, le CSE pour justement contester ses congés payés imposés?
Le salarié ne peut pas auto-saisir le CSE. En revanche, il peut toujours poser la question à un représentant du personnel pour que ça soit relayé en CSE. Maintenant, c'est une simple consultation du CSE. Ce n'est pas un avis conforme qui est demandé. Donc, le salarié, comme les membres du CSE, peuvent être en désaccord avec l'employeur. Ça n'empêchera pas l'employeur de fixer l'ordre des départs en congé payé.
Encore quelques minutes pour plein de petites questions, Thomas.
Une petite question pour mettre à disposition ses salariés auprès d'une association. C'est ce que se demande Julie. Elle souhaiterait permettre à ses salariés de pouvoir faire quelques jours de bénévolat par an pour une association de leur choix. Est-ce qu'elle doit faire signer un avenant au contrat de travail?
Ah, ça, c'est une question qui m'intéresse beaucoup parce que ça appelle au mécénat de compétences. Le mécénat de compétences, le plus simple, c'est de pratiquer ce qu'on appelle la mise à disposition de collaborateurs.
Oui.
Alors, il faut un avenant au contrat de travail qui vient matérialiser l'accord du salarié pour la mise à disposition, tout à fait. Il faut aussi une convention qui va être signée entre l'entreprise et l'association utilisatrice. Et on parlait du CSE tout à l'heure. Lorsqu'il y a un CSE dans l'entreprise, il faut aussi le consulter en amont. Et ensuite, une fois qu'on a respecté ça, on peut tout à fait organiser ces mises à disposition.
Possible donc de mettre à disposition ces salariés. Certains salariés aimeraient bien qu'on mette à disposition leur salaire dès le début du mois. Karim nous a écrit, un de ses salariés me demande systématiquement une avance de salaire. Est-ce qu'il a le droit de refuser?
Alors, pour être précis, il faut distinguer 2 notions juridiques qui sont souvent confondues, l'avance sur salaire et l'acompte. L'avance sur salaire, c'est la situation dans laquelle vous allez demander le paiement anticipé d'une rémunération pour un travail qui n'a pas encore été effectué. C'est vous qui allez taper à la porte de la DRH le 30 juin pour demander tout ou partie du salaire du mois de juillet. Dans ce cas-là, l'employeur peut refuser. Aucune obligation d'accéder à la demande du salarié. En revanche, l'acompte, c'est la situation dans laquelle vous allez demander le versement anticipé d'une somme qui correspond à un travail déjà effectué. Et le Code du travail nous dit, à partir du moment où nous sommes au moins au 15 du mois, le salarié peut demander à son employeur le versement donc de la première partie de rémunération du mois. Et là, c'est une obligation pour l'employeur d'accéder à cette demande.
On peut éventuellement négocier d'obtenir une avance de l'intégralité de son salaire ou pas, alors, dans certains
cas ? Dans le cas d'une avance, on peut tout à fait le négocier.
On peut le négocier.
Ça supposera l'accord de l'employeur. Et c'est quand même assez rare qu'on ait l'intégralité du salaire qui soit avancé.
C'est un peu rare. Mais ça peut faire du bien, en tout cas, d'avoir un premier acompte au cours du mois pour avoir de l'argent. C'est ce que se demande Marie aussi concernant la prime d'intéressement. Son entreprise lui versait annuellement, sauf que la semaine dernière, la direction lui a dit qu'elle ne pourrait plus en bénéficier, elle et l'intégralité des salariés. Est-ce que c'est légal ?
Alors, l'intéressement, c'est un dispositif qui est facultatif et aléatoire. Aléatoire, ça veut dire qu'avant de verser de l'intéressement, il faut conclure en fait un accord dans l'entreprise qui va prévoir une formule de calcul qui bien souvent est assise sur des performances financières. Et donc, en fin de période de référence, qui est généralement une période annuelle, on applique la formule de calcul et on voit si ça dégage ce qu'on appelle une masse d'intéressement, qu'on va ensuite répartir entre les collaborateurs. Donc, puisque cette formule, elle est aléatoire, eh bien, il se peut, parce que les performances financières de l'entreprise n'ont pas été au rendez-vous l'année passée, que la formule de calcul aboutisse à zéro. Et dans ce cas-là, effectivement, il n'y a pas d'accord, il n'y a pas de prime d'intéressement. Et comme il n'y a pas de droit acquis à l'intéressement, ce n'est pas parce que vous en avez bénéficié tous les ans pendant 10, 20 ou 30 ans que vous en aurez forcément l'année suivante. Et enfin, c'est un dispositif qui est facultatif. Donc si l'accord d'intéressement, peut-être que c'est le cas ici, est arrivé à échéance et que l'employeur n'a pas réussi à se mettre d'accord sur une nouvelle formule de calcul, eh bien, il se peut effectivement qu'il n'y ait plus d'intéressement à verser dans l'entreprise.
Moins d'une minute pour la dernière question peut-être, Thomas.
Dernière question pour quelqu'un qui travaille dans la restauration. Il a embauché un nouveau cuisinier, sauf que son actuel cuisinier a renoncé à démissionner. Qu'est-ce qu'il fait avec le nouveau ? Est-ce qu'il doit envoyer une rupture de la période d'essai ?
Allez, en 30 secondes, c'est le défi pour terminer.
En 30 secondes, c'est une question qui arrive souvent. En fait, on ne peut pas activer la période d'essai. Parce que la période d'essai, ça suppose en fait, d'avoir évalué les compétences professionnelles du collaborateur. Et si le contrat n'a jamais commencé à être exécuté, on n'a pas pu le faire. Donc dans ce cas-là, les employeurs sont souvent face à une problématique de conscience. C'est-à-dire que soit on est un peu souks, on laisse le salarié commencer à travailler et on rompt sa période d'essai au bout de quelques jours, ce qui n'est pas très fair play parce qu'en fait l'idée était pipée dès le début. Soit on est transparent, on l'appelle et on lui dit qu'on ne peut pas commencer le contrat. Mais là, on s'expose à un risque parce qu'on est sur une rupture du contrat avant commencement qui peut donner lieu à un contentieux prud'homal et l'employeur peut parfaitement être condamné à des dommages et intérêts versés aux salariés qui forcément seront minimes parce que l'ancienneté du salarié est égale à zéro.
Il n'y a pas de bonne solution finalement dans cette histoire. Voilà.
Pas véritablement, non.
Pas véritablement. Et ben voilà pour cette rafale de questions. Merci beaucoup Florian, merci de venir nous voir. C'était votre première. Elle est réussie, bravo, revenez nous voir. Merci. Très très vite, avec plaisir sur BFM Business. Florent Carrière, avocat associé au cabinet Voxus Avocat. Merci beaucoup Florian, à très vite, avec plaisir sur BFM Business. Midi 45, Thomas, on marque une petite pause et puis...
Dans un instant, on recrute.
Comme tous les jours, à tout de suite.
60 minutes business, BFM Business avec vous.
Allez, midi 47, on recrute comme tous les jours, mon cher Thomas, c'est parti.
Avec Lauriane Delunel, bonjour.
Bonjour Thomas.
Bonjour Lauriane. Bonjour, bienvenue.
Directrice des ressources humaines de Cristal Union. Cristal Union, coopérative sucrière française, principalement de la betterave. Mmh. Alors, expliquez-moi, quelles sont les principales marques sous lesquelles vous commercialisez votre sucre ?
Alors, nous commercialisons le sucre sous la marque Daddy, petites boîtes roses.
Qu'on ne présente plus.
Exactement.
On ne présente plus le temps.
Qu'on connaît bien. Le marché est porteur, c'est pour ça que vous venez aujourd'hui, vous recrutez. Cela dit, les prix ont quand même grimpé du sucre, plus 25% sur un an, j'ai vu. Comment vous faites face à la hausse des coûts de l'énergie aujourd'hui quand on est une coopérative sucrière ? Comment ça marche en ce moment ?
Alors, comme toute entreprise, une coopérative sucrière anticipe. Mmh. Et c'est vrai que tout ce qui était achat d'énergie, nous avions anticipé. Après, c'est vrai que la hausse du gaz, c'est difficile. Mmh. Mais nous ne doutons pas que nous arriverons à vendre commercialiser notre sucre comme il se doit.
Anticiper, prévoir aussi, on sort d'une période de canicule, il y a eu des périodes de gel. Aujourd'hui, comment ça bouscule vos prévisions aujourd'hui, ces aléas climatiques, on va dire ?
Alors, c'est vrai que nous sommes une entreprise qui on s'adapte à temps réel. Mmh. En fait, on doit le faire comme toute entreprise qui se respecte. Je veux dire, lorsqu'il y a eu la période Covid, par exemple... Mmh. Donc, nous produisons aussi de l'alcool. Pendant la période Covid, nous avons réaffecté nos lignes de production pour produire de l'alcool à destination des gels. Donc, nous avons fait moins de biocarburant pour faire des gels hydroalcooliques. Donc, c'est vrai que ça permet, on a toujours ce petit temps d'avance pour pouvoir anticiper au maximum.
Cristal Union, principalement de la betterave, donc dans le nord de la France, forcément. Votre siège est à Paris et vous recrutez 175 postes aujourd'hui pour rejoindre votre coopérative sucrière. C'est quel type de postes sur lesquels vous avez le plus de besoins aujourd'hui ?
Alors, nous avons 115 postes ouverts en CDI. Voilà. Comme vous l'a dit, nous sommes sur plutôt la Marne, l'Aube, autour de la ville de Reims. Donc nous avons plusieurs types de profils en ce moment à recruter.
Ouais.
Donc nous sommes donc une coopérative agricole. Nous transformons la betterave en sucre.
Ouais.
La betterave est arrachée de septembre à peu près jusqu'au mois de janvier. Donc là, nous sommes en période de campagne betteravière. Nous recrutons des conducteurs process.
Ouais.
Le reste de l'année, nous, nous faisons de la maintenance. Nous maintenons notre industrie pour que le jour de la campagne puisse démarrer correctement. Et donc là, nous recrutons des profils plutôt maintenance, électromécaniciens, mécaniciens, chaudronniers.
Donc c'est pour aller travailler sur les exploitations ?
Ah non, c'est pour travailler dans l'industrie. Donc avons 13 sites industriels, donc qui se positionnent dans 7 départements. Et par contre, pour tout ce qui est agriculture, nous avons 9000 agriculteurs coopérateurs.
Ouais.
Donc c'est eux qui gèrent, on va dire, la plantation de betteraves et l'arrachage. Nous avons par contre des collaborateurs qui les accompagnent aussi tout au long de l'année, ce qu'on appelle des responsables relations culture. Donc là aussi, on recrute, ce sont des salariés de Cristal Union.
Ouais.
Sinon, nous avons aussi des recrutements dans la logistique industrielle pour pouvoir fournir les clients. Donc nous chargeons des camions, nous chargeons des trains,
oui.
Puisque notre sucre est aussi à destination. Nous n'avons pas que la marque Dadi, nous avons du sucre, ce qu'on appelle vrac, à destination de grandes industries que je ne nommerai pas,
oui,
qu'ils utilisent pour leur soude.
On est sur beaucoup de profils pénuriques quand même, qu'on a du mal. Alors vous parliez de...
Oui.
Mécanicien,
le chaudronnier, voilà, sont les profils.
Oui, vous devez rencontrer beaucoup d'industriels comme nous.
Ça doit être difficile pour vous, surtout, on imagine.
C'est vrai que c'est difficile.
Ouais.
C'est difficile aussi parce que l'industrie est un peu méconnue.
Ouais.
C'est-à-dire que ça fait toujours un petit peu, quand on parle d'industrie, de grosses entreprises...
On reste avec les images d'antan. Alors.
Exactement. On reste, ouais. Et ce qui est bien dommage parce qu'il y a énormément d'emplois très, très...
Absolument. 115 postes à pourvoir au total. Comment est-ce qu'on postule, Thomas?
On trouve toutes les offres sur le site de Cristal Union, le site recrute.cristal-union.fr. Ça s'écrit comme ça s'entend en français. On vous met le lien dans notre interview que vous pourrez retrouver sur notre page LinkedIn, notre compte Twitter, notre page web BFM Business.
Et ben voilà pour cette présentation très complète. Merci beaucoup, Lauriane.
Merci à vous.
Merci de passer nous voir, Lauriane Delunel, directrice des ressources humaines de Cristal Union.
Merci.
Avec nous sur BFM Business. Merci, à très vite, avec plaisir. Midi 51, je vous redonne les modalités pour nous écrire, nous poser des questions, nous faire des offres d'embauche tous les jours. Tous les jours. Hashtag BFM Business avec vous, les réseaux sociaux, avec vous, @bfmbusiness.fr, l'adresse internet, le site bfmbusiness.com, et je vous rappelle que tout ça, c'est totalement gratuit. Midi 51, on continue de recruter, Thomas, en direct.
On recrute avec le directeur général d'Octa France, Nicolas Petroussenko. Bonjour.
Bonjour.
Bonjour Nicolas, bienvenue.
Éditeur de logiciels IT, le SAS, comme on dit. Réduire les outils utilisés par les entreprises aujourd'hui, c'est ça? Faut collecter les informations pour transmettre les bons ordres au bon moment? C'est ce que vous faites?
Alors, pas exactement. Nous, on est dans la cybersécurité. Donc, on est sur un sujet qui est vraiment d'actualité, qui est un sujet, en l'occurrence, qui est la gestion de votre identité, qui va permettre d'accéder à un certain nombre de ressources, que vous soyez collaborateur de l'entreprise, et aussi, si vous êtes client, vous êtes de plus en plus, vous, moi, tout le monde, des consommateurs sur Internet, et il faut sécuriser cet accès en fonction de votre identité numérique, et sans que ça pénalise l'expérience utilisateur. Et on le fait pour tout type de ressources, pour toute organisation.
Octa France, c'est qui vos principaux clients? C'est des grands groupes plutôt, vous vous adressez? Ou au contraire, des PME, des petites entreprises?
Alors, on a 15 000 clients dans le monde. En France, on a plusieurs centaines. Ça va de sociétés comme Engie. Quand vous-même, vous consultez votre facture, éventuellement vous la payez, de gaz, et ben vous vous connectez et le service qui est derrière et qui s'assure que c'est bien vous, que c'est pas quelqu'un d'autre qui essaye de d'usurper votre identité et qui vous donne accès aux différents services d'Engie, ben, c'est porté par Octa, par la solution Octa. Pareil pour les collaborateurs d'Engie. Et puis, à l'autre bout de la chaîne, vous avez des plus petites structures dans un monde, par exemple, public, comme le CH de Saint-Quentin. Données médicales, il faut y accéder avec un certain nombre de précautions. Il faut mettre ce qu'on appelle des solutions de double facteur d'authentification. Toujours pour éviter l'usurpation d'identité, qui est un grand sujet.
C'est un grand sujet du moment. Vous recrutez une vingtaine de personnes chez Octa France. Quels sont les profils que vous recherchez, Nicolas? Expliquez-nous ça.
Alors, Octa France existe depuis 4 ans et j'ai eu la chance de le démarrer. Aujourd'hui, on est 70 et 20, c'est vraiment le minimum. Donc, nous, on est.
Voilà. Alors, au maximum, ça donne quoi? Dans vos rêves les plus fous, alors, expliquez-nous.
Les perspectives sont très importantes. La croissance de l'entreprise est très significative, croissance organique, et nous mène aujourd'hui déjà un chiffre d'affaires consolidé de l'ordre de 1,3 milliard, 1,4 milliard, avec avec une croissance qui, en termes de personnes en France pour cette année, va être au moins de 20 personnes. Donc, des commerciaux, on est une structure, comme on dit, go-to-market, mais aussi des avant-ventes, des experts techniques, mais aussi de ce qu'on appelle des CSM, des gens qui s'assurent que les clients sont heureux une fois qu'ils ont notre solution. Et comme c'est un modèle de souscription, et ben qu'à la fin de la souscription, ils continuent avec nous.
Ouais.
Et puis, un certain nombre d'autres profils dans le marketing plus traditionnel. Tout ça très rapidement.
Donc, pour aller chercher et maintenir cette clientèle, gérer les grands comptes, comme on dit. Donc, des ingénieurs seniors, également directeurs de clientèle grands comptes que vous recherchez. Une vingtaine, c'est installé à Paris.
Octobre. Alors, on est installé à Paris, mais on est une société internationale avec deux hubs qui se sont créés récemment. Un hub à Dublin, un hub où on essaie de mutualiser ce qui peut l'être en termes de ressources go-to-market, et aussi un hub de développeurs qui, lui, est à Barcelone. Voilà. Donc, à Paris, certes, mais un peu partout en Europe, voire dans le monde.
Capable d'aller chercher donc des marchés internationaux et pas seulement restreint au territoire français, à l'exemple.
Absolument, d'autant qu'on est une société initialement de la Silicon Valley à San Francisco et qu'on a déjà beaucoup, beaucoup d'empreintes sur beaucoup de pays.
Bien, une vingtaine de postes au maximum, c'est combien, allez, Nicolas, si
pour la France?
Oui.
Bah, écoutez, si vous demandez à mon patron, c'est beaucoup plus. Si vous me demandez, c'est plus raisonnable.
Allez, 70, 80, 90.
Ouais, ouais, ouais. Enfin, tous ceux qui ont envie de postuler chez Octa parce qu'il y a une bonne ambiance et qu'il y a une belle croissance et que c'est un sujet vraiment d'actualité et de futur, n'hésitez pas.
N'hésitez pas, allez-y. Comment est-ce qu'on postule, Thomas?
Pour postuler chez Octa France, ceux qui nous écoutent à la radio Octa, c'est OKTA. On va sur le site octa.fr, onglet carrière. C'est là où il y a toutes les offres qui sont notamment en anglais. On postule en ligne, on vous tient informé. On vous met le lien sur notre page LinkedIn, notre compte Twitter et notre page web. FM Business.
Ça sera disponible d'ici quelques minutes, tout ça. Ben, c'est noté, merci beaucoup Nicolas, merci.
Merci à vous.
Merci de passer nous voir. Vous nous confirmez que les grands groupes s'y mettent et que les PME petit à petit se rendent compte aussi que personne n'est épargné par les...
Tout le monde, même mes parents qui sont très âgés s'y mettent en deux secondes,
oui.
Puisqu'ils se sont tous fait ficher, c'est-à-dire qu'ils ont tous eu à un moment donné un email qui a été pas le bon, et puis il y a des gens qui ont accédé en leur nom à des services et ils se sont fait avoir. Ça concerne tout le monde et d'abord les entreprises.
Il faut y aller, qu'on soit un grand groupe ou une PME, effectivement. Merci beaucoup Nicolas, merci de passer nous voir. Nicolas Petroussenko, directeur général d'Octa France avec nous sur BFM Business. Merci beaucoup d'être passé nous voir. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui, midi 56. Demain, c'est mardi, hein, Thomas.
Demain, mardi, on sera en direct du sommet BFM Patrimoine, au Carrousel du Louvre. Avec comme sujet pour demain, comment jalonner le développement de sa start-up. Notre expert viendra répondre aux questions. Comment choisir son fonds d'investissement? Quelles étapes incontournables pour rendre crédible notre entreprise aux yeux des investisseurs? On répond à toutes vos questions. Vous nous envoyez vos témoignages si vous aussi vous avez eu des difficultés, des succès au tout début du lancement de votre start-up.
On sera avec vous demain à partir de midi depuis le Carrousel du Louvre avec vous, midi et demi, Thomas, pour aborder toutes ces questions, évidemment. Voilà, midi 56 toujours, dans un instant, les experts. Si vous nous regardez à la télévision, vous flashez le petit QR code que vous voyez, vous arrivez sur la page des replays de 60 minutes business, l'ensemble des interviews, des entretiens, des offres d'embauche, des réponses à vos questions comme tous les jours. Voilà, midi 57, ça y est, on y arrive. Les experts, dans un instant, on se retrouve demain midi pour nouvelles aventures. Bonne journée, à demain.
60 minutes business. Toute l'info éco et business à la mi-journée sur BFM Business.